une en Israël ce matin. Il va être bien sûr question du conflit qui oppose Israël au Hamas et toute la sécurité qui va avec. Blaise, je vous laisse en compagnie de notre invité.
Bonjour Raphaël Jaouzalmi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Alors, nous le disions dans les titres de ce journal, le Washington Post a sorti une nouvelle nous annonçant que les trois phases de l'accord sur les otages, sur la libération des otages et un cessez-le-feu ont été validées par les parties qui s'attaquent maintenant aux détails. Alors, Raphaël Jaouzalmi, quelles sont les dernières nouvelles et quels sont ces fameux détails?
Bien, ce sont d'abord des détails pour jouer la montre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout le Hamas qui fait exprès de faire durer le plaisir en négociant chaque mot, chaque virgule de cet accord qui est de toute façon extrêmement compliqué et qui a beaucoup trop de phases et de phases intermédiaires pour marcher sur le long terme. On espère qu'il y aura au moins une première phase de libération de quelques otages. Je doute fort que les autres phases suivent. Il y a toujours la même pierre d'achoppement, le même problème de savoir en quoi consiste un cessez-le-feu. Est-ce que c'est un cessez-le-feu qui parle d'une cessation totale des combats ou d'une trêve prolongée? Est-ce que Tsahal se retire puis revient? Il est un petit peu dans le vague à ce sujet-là. Et donc, nous sommes ici dans quelque chose qui est extrêmement grave, car chaque jour qui passe est fatal pour les otages. Il est hors de question de continuer à négocier cette libération et cet accord ridicule, car il n'y a plus de temps. Il faut frapper de plus en plus fort le Hamas. Il faut essayer aussi d'éliminer les membres du Hamas à l'étranger. Les otages n'ont plus une minute à perdre. Il est donc ridicule de prendre en considération ces fignolages sémantiques qui vont prendre des jours, sinon des semaines, alors que, comme je l'ai dit, les otages n'ont plus la force physique et mentale de survivre aux conditions atroces de détention.
Le Hamas manquerait de munitions et de fournitures. Il ferait aussi face à une pression croissante de la part des civils palestiniens. Aujourd'hui, Raphaël Jaouzalmi, quel est l'intérêt du groupe terroriste de continuer à s'accrocher à ces virgules dont vous parlez?
C'est l'intérêt d'abord des fanatiques. Hein. Le Hamas est tellement fanatisé qu'il ne comprend pas qu'il a perdu la guerre et qu'en fin de compte, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que nous puissions atteindre Sinoir et éliminer les dirigeants. Malheureusement, ce fait qu'ils ne reconnaissent pas sa défaite prolonge la sauce, si on veut. Et donc, le Hamas se fiche de l'opinion des Gazaouis. Hein, ils s'en est toujours fichu. C'est une dictature, c'est une tyrannie islamiste. Il n'a pas aussi, il n'est pas en contact avec la réalité. Monsieur Sinoir est terré dans les tunnels, rêvant toujours de son djihad, et il préfère de toute façon, et c'est ça le véritable problème, il préfère de toute façon mourir que d'accepter sa défaite. Et donc c'est là le problème que nous avons face aux fanatiques, ce qui veut dire en fin de compte qu'il va falloir continuer pendant encore de longues semaines, si ce n'est des mois, l'opération à Gaza, et donc faire le nettoyage, le dératissage des tunnels jusqu'à ce qu'on puisse affaiblir suffisamment le Hamas et installer, comme c'est prévu, une force internationale qui prenne la relève et qui puisse faire régner l'ordre et la sécurité dans Gaza à la place de Tsahal et entamer la reconstruction de la bande de Gaza.
Est-ce possible aujourd'hui de justement entamer une reconstruction de la bande de Gaza sans que le Hamas ne revienne?
Alors aujourd'hui, pas encore. Le Hamas est agonisant, mais pas tout à fait détruit. Il y a maintenant des signes clairs qu'il commence quand même à paniquer. Les dirigeants du Hamas qui résident au Qatar ont déjà proposé à plusieurs reprises à Sinoir et ses sbires de Gaza de s'enfuir par le Sinaï, par l'Égypte, et de mener une vie politique et d'abandonner la branche militaire du Hamas. Pour l'instant, donc, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y a même des essais, des tentatives de remonter vers le nord des militants armés du Hamas qui sont attendus heureusement par les troupes de Tsahal, mais il y a quand même une tentative de se redéployer. À chaque fois que Tsahal d'ailleurs se retire d'un endroit, les gens du Hamas y reviennent et tentent de reprendre le pouvoir, résumer leur mainmise sur la bande de Gaza. Et donc, ça va être un travail de longue haleine. Et comme je l'ai dit, ce qui va changer la donne, ce sera l'entrée en jeu d'une alternative à la direction politique, sécuritaire et administrative de la bande de Gaza, qui peut être de nature internationale au départ, jusqu'à ce que l'autonomie palestinienne, qui pour l'instant n'en a pas les moyens, reprennent la gestion de la bande de Gaza.
Pour revenir sur ce fameux accord décrit par les responsables américains, on parle d'un cessez-le-feu de 6 semaines pendant lequel le Hamas libérera 33 otages israéliens, les femmes, les hommes de plus de 50 ans et les blessés. À premier abord, cela a l'air d'être une bonne nouvelle, mais on vous sent plutôt pessimiste par rapport à cela.
Oui, parce que en espérant qu'on arrive à cette première phase de 33 otages libérés, ça sera aux dépens des autres qui ne seront pas libérés et qui n'ont pas les 6 semaines dont on parle. C'est pour eux, comme je l'ai dit, dans la situation physique et morale où ils se trouvent, c'est beaucoup trop long. Ils ne survivront pas à ces 6 semaines, d'autant plus qu'on ne peut absolument pas faire confiance au Hamas, ce sont des terroristes. La situation à Gaza et la complexité de l'accord ne vont pas ensemble. Il y a ici beaucoup trop de portes ouvertes pour qu'il y ait des infractions à l'accord et la reprise des combats, auquel cas on n'aura libéré qu'une partie des otages et pas les autres. Donc moi, je m'oppose fermement à cette proposition américaine. Il faut une proposition globale, c'est-à-dire libérer les otages, tous les otages d'un seul coup. Et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, il faut dès demain matin, 8h, que tous les 120 otages morts ou vivants soient remis aux mains d'Israël, et à ce moment-là, on arrête les combats, on arrête la guerre, quitte à, dans un an ou deux, à aller tuer tout le monde qui a, nous avons sur nos listes toute une série de noms, à commencer par évidemment Monsieur Sinoir, qui peuvent attendre, on peut les exterminer un peu plus tard, c'est pas grave. Et on n'est pas obligé non plus d'ailleurs de respecter les accords avec eux puisque ce sont des terroristes, mais ce qui est la priorité, c'est dans l'immédiat de demander, d'exiger une libération de tous les otages d'un seul coup, sinon on risque d'avoir beaucoup d'otages qui vont rester coincés là-bas et qui vont mourir là-bas parce qu'on n'aura pas agi assez vite. Alors, 6 semaines de trêve, non. Sinoir peut attendre, tous ses copains peuvent attendre, les otages ne peuvent pas attendre.
On parle aussi de la libération en contrepartie de centaines de Palestiniens des prisons israéliennes, mais cela reste des personnes qui ont mis en danger l'État hébreu.
Exactement. Lorsque le soldat Gilad Shalit a été libéré contre plus de 1000 otages, contre 1000 détenus palestiniens terroristes, eh bien, 30% de ces terroristes ont repris du service immédiatement. Et ça a coûté la vie à beaucoup d'Israéliens, car il y a eu des attentats. Libérer certains terroristes importants comme M. Barghouti, c'est libérer Sinoir numéro 2, c'est-à-dire se préparer un 7 octobre en Judée-Samarie. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Ceci étant dit, je le dis et le répète, il faut payer le prix fort pour libérer mais tous les otages. Parce que si on commence à dilapider nos cartes de détenus palestiniens, et nous n'aurons peut-être pas assez de monnaie d'échange pour libérer d'autres otages. Il faut faire très attention à combien on libère de détenus palestiniens et qui, surtout les noms. Et là-dessus, c'est aussi un problème de divergence entre le Hamas et les Israéliens sur le choix des détenus palestiniens qui seront libérés, mais pour moi ça ne marche que dans une solution globale. À quoi j'ajouterais tout de même que de toute façon il serait quand même intéressant soit de mettre des micro-puces dans le corps de ces terroristes et puis de les éliminer plus tard, soit de leur injecter une maladie grave qui se déclencherait un petit peu plus tard. Enfin, il est hors de question que ces personnes vivent très longtemps après leur libération dans le cadre d'un accord. Il faudra trouver un moyen de les rattraper et soit de les réincarcérer, soit de les éliminer physiquement.
Raphaël Jérusalmi, je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.